Alors on va passer au premier texte, Deutéronome 8, les versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 7. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Verset 10. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Et dans l'évangile de Luc, verset 21a, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Et le verset 25. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Un défi.
Bonjour. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même saison. J'ai tellement chaud que je vais me refroidir dans le lac et puis vous me donnez chaud. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Vous ne m'avez pas beaucoup vue ces derniers temps, entre autres parce que j'ai beaucoup d'engagement dans le corps de Christ et ça tombe régulièrement sur le dimanche. Alors, mon cœur, il est ici, mais voilà, parfois j'étais ailleurs en vous bénissant de loin. Je vous encourage à écoutez, si vous ne l'avez pas déjà fait, le message de Jonathan de la semaine passée, parce que quelque part, son message balise un peu ce que moi j'apporte cette semaine. J'étais justement dans une rencontre il y a quelques semaines où la journée était consacrée pour l'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église. Et il y avait plein de personnes qui témoignaient. Et en même temps, on parlait des problèmes de ce que nous, on appelle les problèmes gris. Parce que dans notre monde, on discute beaucoup. Alors, c'est un acronyme, le mot gris, des questions du genre, des relations, de l'identité et de la sexualité. Et à un moment donné, on a passé du temps autour du Notre Père. Et les pasteurs qui étaient là, ils ont dit « Donne-nous notre pain de ce jour » qui fait partie de la prière que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6. Et il a dit « Dieu s'occupe aussi des problèmes matériels dans nos vies. » Et dans mon cœur, je me suis dit « Mais c'est dommage ». Qui disent ça, parce que pour moi, quand Jésus a dit « Donne-nous notre pain de ce jour », il est en train de parler de toutes nos faims et de toutes nos soifs qui ne sont pas seulement matérielles, qui sont justement souvent soit spirituelles, soit dans ces problèmes que je vous ai dit tout à l'heure, gris. Alors, c'est ce qui m'a animée pour préparer le message de ce matin. Et plus j'allais de l'avant, plus que j'avais la conviction que c'était important de parler de ça. Comment avoir faim et soif de Dieu ? Quand Jésus a dit Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand il emploie le mot pain, c'est pas le même pain qu'aujourd'hui on a. C'était un pain quasi qui contenait tout ce qu'un être humain avait besoin, à part peut-être les choses fraîches qu'on trouve dans les légumes ou dans les fruits. C'était complet, il n'y avait pas tous les problèmes de gluten qu'il y a aujourd'hui. Il était en train de dire que, en tout cas, physiquement, c'est du solide. Et c'est pour ça que, dans la Bible, on voit aussi que c'est un très grand souci pour Dieu que, physiquement, les gens soient nourris. Par exemple, dans Ésaïe 58, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est de partager le pain avec celui qui n'en a pas. Jésus dit lui-même à un moment donné, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et c'est l'importance que pour nous qui avons beaucoup matériellement, qu'on partage avec ceux qui n'ont pas. Ça, c'est par rapport à la nourriture physique. Et pour Jésus, on voit que c'était aussi une dimension très importante. C'est frappant parce que ça paraissait même plus important des fois pour Jésus que pour ses disciples. On le voit, par exemple, à la multiplication des pains. C'est-à-dire que les gens sont là, ils ont passé toute la journée avec lui, et Jésus n'ose pas les renvoyer à la maison de peur qu'ils défaillent en route. Donc, c'est l'origine, deux fois, de la multiplication des pains. Pour lui, c'était important que les gens aient à manger. Et ça doit l'être aussi pour nous. Et voilà, on vient de faire l'offrande, mais de multiples manières qu'on soit concerné par ce problème mondial hein, de ce que les êtres humains ont besoin. On le voit aussi, Jésus, par exemple, quand ses disciples ont péché toute la nuit, pourtant c'est après la résurrection, on pourrait dire que c'est un moment très spirituel, ben non, ils préparent un barbecue parce que ils ont péché toute la nuit, sauf qu'ils n'ont rien péché, puis ils ont faim, et leur préparent à manger. Il prend soin de nous, comme un excellent berger qu'il est, et qu'on voit dans le psaume 23. Et puis, on vous a lu juste avant, malheur à ceux qui sont rassasiés, car ils auront faim. Mais on voit même à travers cette phrase que l'important, c'est d'être nourri. Et pour Dieu, c'est très important qu'on le soit. Et comme on l'a lu, c'est un pays où coule le lait et le miel. Une des promesses qu'on trouve dans Apocalypse 7, c'est qu'on n'aura plus faim, on n'aura plus soif. Et donc le but de Dieu, c'est pas qu'on soit affamé, c'est qu'on soit nourri. Même quand il dit, mais malheur à vous qui êtes rassasiés, maintenant. Voilà. Pour Jésus, c'est une évidence de faire un lien entre la faim physique et puis en tant que chrétien, on va dire, faim spirituelle. Moi, je pense que c'est la faim de notre être tout entier. C'est pas seulement une faim spirituelle. Et on le voit dès le début du ministère, quand lui-même il a faim dans la tentation, et puis que le diable vient lui dire « change ces pierres en pain ». Et Jésus dit « mais non, l'être humain, il ne vit pas que de ça. Il y a d'autres fins. Et l'homme, l'être humain, vit de ce qui sort de la bouche de Dieu aussi. » Voilà. Alors, on ne peut pas accuser Jésus de négligence, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à nos fins physiques, puisque voilà, il a prouvé que non, mais en même temps, il est tout à fait conscient qu'il y a d'autres fins, et là, on va avoir vraiment besoin de Dieu lui-même. Jésus lui-même, il a connu la faim, c'est écrit plusieurs fois dans les évangiles, et il fait en sorte de manger. Il n'est pas toujours dans le jeûne. On a une connaissance empirique de la faim ou de la soif, et c'est pour ça il y a énormément de versets qui parlent de ça, et on en a lu un, on l'a chanté tout à l'heure. Mon âme soupire après Dieu comme une biche soupire après les courants d'eau. C'est dans le psaume 42. On verra qu'on peut le traduire autrement, et tout d'un coup, ça nous fait gicler dans les questions grises dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dès notre naissance, quelques minutes ou quelques heures après, on a des espèces de crampes dans l'estomac qui nous dit qu'on a faim. Et donc le nouveau-né va hurler justement pour que la mère le prenne contre elle et le nourrisse de son sein, du lait. Et l'enfant s'apaise, on a tous connu ça. Il y a comme un rythme qui s'inscrit en nous. Et l'enfant s'apaise, s'endort pendant un moment. Et puis de nouveau, les jeunes parents le découvrent, hein, c'est régulier. L'enfant va de nouveau, le nouveau-né, le nourrisson, hurler jusqu'à ce qu'il reçoive à boire, à manger. Et il y a quelque chose qui s'inscrit en lui, c'est que quand il a faim, il crie et il reçoit. Voilà. Et ça, c'est en nous. On en a une mémoire quelque part, hein, en nous. Il y a un lien qui est fait aussi, par exemple, avec Pierre, dans 1 Pierre 2, où il dit, mais désirez la parole de Dieu comme un tout petit bébé qui vient de naître et qui crie après le lait. Voilà. Donc, on est encouragé à désirer de cette façon-là la parole de Dieu, ce qui sort de Dieu. J'ai envie de vous parler un petit peu des faims dont on parle peu dans l'Église. Et pourtant, je suis sûre que Jésus, en disant « Donne-nous notre pain », il y pensait très fort. Ce sont les faims qui prennent tellement de place dans notre monde et on en parle tout le temps. Mais pour le moment, on en parle peu dans les églises, bien qu'on va y être obligé quand même. Alors, par exemple, j'en ai déjà touché quelques mots, mais il y a une faim dont beaucoup de personnes d'être bien dans son propre genre, dont l'être sexué qu'il est à la naissance. Et beaucoup parmi nous, on s'en rend compte ou on ne se rend pas compte, mais on cherche à être bien en tant qu'homme, en tant que femme. Et c'est un combat de notre vie, parce qu'en fait, on ne se sent pas si bien que ça. Typiquement, par exemple, une petite fille qui a vécu des abus, eh ben, son propre genre peut devenir comme son ennemi, parce qu'elle se dit, si j'avais été un garçon, ça ne me serait jamais arrivé. Il y a d'autres types de faims par rapport à son propre genre, c'est d'être bien ou en cohérence avec le genre, pas celui de la naissance, donc biologique, mais avec l'autre genre. Ce sont les personnes qui sont prêtes même à changer de sexe, de se faire opérer. On voit qu'il y a une faim de cohérence avec quelque chose pour se sentir bien. Et entre les deux, il y a toutes sortes d'autres faims qui sont en rapport avec notre propre genre. Puis il y a les faims relationnelles. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de dépendance au niveau des faims relationnelles. Et il y a des faims qui sont vraiment légitimes. Et il y a toutes les personnes, par exemple, qui se retrouvent seules, par exemple quand elles sont veuves ou qu'elles ont été abandonnées ou qui sont seules. Et puis qui ont des faims relationnelles très, très fortes. Après, il y a toutes les personnes, et on le voit chez nos jeunes, qui vivent les relations à travers les réseaux, mais sont affamées de vraies relations, parce qu'ils passent tellement de temps dans les réseaux virtuels, justement, dans les relations virtuelles. Donc, ils vivent les choses plus en surface. C'est que des exemples, hein, ce que je vous donne maintenant. Puis, il y a d'autres faims qui touchent à notre identité. On a tellement faim d'être aimé pour qui on est vraiment, d'être reconnu, d'être valorisé dans nos vrais dons, dans nos vrais défis, dans nos vrais combats. Et souvent, ben c'est le propre de l'être humain, c'est qu'il voit les choses en apparence. Dieu, il voit au cœur, hein, comme c'est marqué dans Samuel. Mais nous, on s'arrête à l'apparence alors qu'on a une faim d'être aimé dans qui on est vraiment. Et avec tout ce qui fait nous, hein, avec nos difficultés, et nos personnes, notre vécu, notre histoire. Puis, il y a les faims sexuelles. Et on en parle peu, mais c'est des véritables faims. Et beaucoup de personnes le manifestent à travers des comportements compulsifs ou bien au contraire en congelant une partie de soi parce que ça fait trop mal d'être en contact. Et toutes ces fins-là, il me semble que l'Église devrait en tenir compte. Et la Bible, elle est pleine de textes qui en parlent. Sauf qu'on ne se rend pas compte ou on nomme pas assez que oui, Dieu veut, on tient compte qu'il sait, qu'il connaît. Voilà. Moi, je pense même que l'Église de demain, celles qui vont subsister, c'est celles qui vont répondre à ces questions-là, qui vont parler. Moi, je rêve d'une église, alors je ne l'ai pas encore proposé aux anciens de notre église, mais où il y a une cellule de prière qui est spécialement pour toutes les personnes qui sont concernées par les questions grises, soit elles-mêmes, soit pour des membres de famille, soit parce qu'elles sont sensibles à ce qui se passe dans le monde, puis qu'on prie, qu'on regarde des textes qui en parlent, qu'on se bénisse dans ces réalités-là, semaine après semaine, justement parce que l'église, le monde a besoin d'êtres humains qui ont fait un chemin à ce niveau-là et qui ont rencontré Dieu dans ces questions-là. Voilà. Et qu'on n'en parle pas seulement en termes d'abstinence, justement. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous affamer, c'est bien de répondre. Comment je peux être sûre que Dieu y pensait à cette faim, à cette soif-là pour ces questions grises? Ben, par exemple, je le vois dans la Samaritaine, dans l'histoire de la Samaritaine. Parce que c'est une femme, vous imaginez, elle a eu 5 maris et le 6e homme avec qui elle est, eh ben, c'est pas son mari. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui vraiment, je sais pas, une dépendante des hommes ou nymphomane ou voilà, mais quelqu'un en tout cas qui visiblement, pour elle, ça comptait énormément les relations avec les hommes. Elle avait des besoins. Et Jésus, il vient droit sur ce terrain de la faim, de la soif quand il lui dit « Donne-moi à boire ». Alors, ça a un double sens, hein, ou même peut-être un triple. Ça a celui du fait qu'il a soif et puis qu'il est au bord d'un puits. Mais elle va dire « Mais comment ça se fait que tu me demandes à boire à moi ?» Toi qui es un homme, juif en plus, et puis moi, une femme qui suis samaritaine. Voilà. Et après, Jésus va plus loin et avec elle, elle va percuter la question de la dépendance, de l'attachement, de ce qui touche le plus profond de son être et l'adoration, justement. Elle fait une connexion avec tout ça dans la discussion. Et les personnes qui sont concernées par ces fins, en relisant par exemple l'histoire de la Samaritaine, tout d'un coup, ils voient que Jésus, il visait cette partie du cœur de cette femme qui était en manque, qui avait des besoins. Si tu savais à qui tu demandes à boire. Si tu savais l'eau que je peux te donner, c'est carrément des sources qui jailleraient de ton sein et tu n'aurais même plus besoin de venir ici pour prendre à boire. Et c'est quelque chose, il y a un double jeu qui est inscrit là et je trouve très beau parce que Jésus, il aurait pu dire « Je te donne à boire et tu n'auras plus jamais soif ». Et puis ça crée dans sa tête de dépendance une nouvelle dépendance, mais pas forcément positive. Et Jésus carrément lui dit, mais non, c'est des sources qui vont jaillir de toi. Il y a quelque chose qui se passe si tu dépends de moi. C'est que je vais jusqu'au bout de cette soif que tu as, c'est carrément de toi que ça va couler. C'est une promesse juste extraordinaire. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus ne s'arrête pas en disant... l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que dans les questions grises, pour combler nos faims en tant qu'être humain, on va utiliser des êtres vivants, des êtres humains. Ou bien on va nous utiliser nous-mêmes à travers nos fantasmes, mais nous sommes des êtres vivants, pour nous nourrir, pour combler nos faims. Et Jésus, c'est pas quelque chose qu'il propose en disant la parole de Dieu. Du reste, Jean commence comme ça. Il dit, la parole s'est faite chair. Il propose quelqu'un aussi. À nos petits quelqu'un dont on se nourrit, tout d'un coup, dans nos relations, et c'est pas seulement dans la sexualité, on peut se nourrir de notre propre enfant, On peut se nourrir d'une personne, on peut se nourrir de responsables spirituels, de reconnaissance humaine. Enfin, mais c'est toujours, on est en train de manifester qu'on a réellement une faim de quelqu'un en nous. Moi, ça me frappe parce que on travaille beaucoup avec des non-chrétiens. Il y en a qui imaginent et ça les apaise. Je ne sais pas comment ils font, de se dire mais un jour moi, que je vais mourir, je vais être en contact avec comme un espèce de grand tout, comme une énergie qu'il y a dans l'univers, et puis je vais être un avec cette énergie, et puis je vais me diluer là-dedans, et ben moi, ça m'apaise de penser à ça. Je connaissais quelqu'un dans une église qui disait, pour moi, Dieu, c'est quelque chose d'indéfinissable. Et moi, c'est... connaissant aussi les dépendances gris, je me disais, mais moi, le quelque chose ne me suffit pas. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Ça m'angoisse même de me dire que je vais finir ma vie dans un grand tout. Non, j'ai besoin de quelqu'un. Et pour moi, que Dieu soit quelqu'un, une personne qui se présente dans la parole de Dieu, à qui je peux m'attacher, qui me parle, avec qui je peux vivre des choses, c'est hyper important. Et quand Jésus dit... et on lira le texte tout à l'heure, c'est ici le pain vivant descendu du ciel. Et il parle de lui. Vous savez qu'avant la Sainte Cène, il dit, prenez ce pain. C'est vraiment une nourriture pour vous, mais c'est mon corps. Prenez ce vin, c'est réellement une boisson. C'est mon sang. Il est en train d'attirer carrément à lui. Moi, je ne sais pas quel effet ça vous ferait, à vous, par exemple, de dire, imaginez ce pain, il va vraiment vous nourrir, c'est mon corps. Moi, je ne supporterais même pas le dire. Comment ses disciples ont réagi à ce moment-là? Mais en fait, dans leur inconscient, Jésus, il était en train de dire, vous avez tous besoin de quelqu'un. Et je suis là, et ce n'est pas que des choses que j'aimerais vous donner. Ce n'est pas que des paroles. C'est moi, en personne, pour vos fins. Et je suis là et je veux me donner. Il me reste combien de temps? Parce que j'aurais un petit témoignage à donner, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Oui? Il y a une vingtaine d'années, je vous parlais du petit bébé qui dépend de la mère et tout ça. Moi, au début, j'ai été mise dans un hôpital à ma naissance et j'étais dans des appareils, tout ça, donc je n'ai pas pu vivre ce rythme de pleurer, d'être nourrie et voilà, d'être apaisée. Et plus tard, mes parents, qui étaient des survivants de guerre, pour eux, il fallait me rendre indépendante le plus rapidement possible, donc on me laissait énormément pleurer. Et au bout de quelques semaines, j'ai été placée en crèche de 7h matin à 7h le soir. Et là aussi, les bébés étaient comme des tubes digestifs, on les nourrissait puis on les laissait. Toujours est-il que j'ai grandi avec des grandes carences affective et émotionnelle, je me suis, entre guillemets, mal construite. Voilà. C'est ce qui explique qu'après, j'ai vécu beaucoup de dépendance, et particulièrement vis-à-vis des femmes. Si une femme me donnait de l'attention, tout de suite, j'avais une faim d'être nourrie par elle. Et franchement, ça m'a beaucoup perturbée dans ma vie. Et puis, un jour, quelqu'un est venu vers moi et il m'a dit, Andrea, le Seigneur te dit, prends la part du lion. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai commencé à prier et c'était des périodes où vraiment je connaissais cette faim de l'intérieur jour et nuit. Et je commençais à réfléchir et je me disais, mais un lion, c'est un prédateur et il mange des victimes des autres animaux. Et je me disais, mais moi, je ne suis pas une prédatrice. Et je ne dois pas justement me nourrir de l'être humain comme j'aurais tellement envie. Et je me rappelle, Jésus m'a dit, mais moi j'aimerais que tu te rendes compte que j'aimerais être ce pain, ce vin, cette nourriture après laquelle tu soupires. J'aimerais d'abord déjà que tu te nourrisses de moi. Et c'est comme s'il me disait, mais prends la Sainte Cène. Voilà. Alors j'étais toute seule, je me suis dans mon cœur, j'ai prié, je me suis dit je suis en communion avec le reste du corps de Christ. J'avais entendu que des chrétiens parfois vivaient ça, Et j'ai préparé une petite coupe, j'ai préparé le pain, j'ai lu les textes, je discernais le corps de Christ. Et là, le Seigneur m'a dit, Andrea, tu ne mets pas le vin dans une coupe, mais tu le mets dans un bol. Et tu prends cette sainte scène comme si tu étais un lion. Et tu sais que tu es en train de manger mon corps, boire mon sang. Alors théologiquement, bien sûr, moi je ne suis pas dans ce qu'on appelle la transsubstantiation, que je crois qu'à l'instant où je vais manger le pain, ça s'est transformé dans le corps de Christ. Ce n'est pas ça, mais symboliquement, hein, je me rendais compte que c'était ça. Alors voilà, j'ai posé les deux. Et puis au moment, voilà, puis le Seigneur m'a dit non, pas sur une table bien assise, tu le mets par terre et tu te mets à genoux devant moi. Et je me suis mis à genoux, voilà. Et puis j'ai voulu prendre le pain dans ma main. Et puis le Seigneur m'a dit non, tu le prends avec ta bouche. Et je me suis retrouvée à manger ce pain. Puis au moment où j'ai voulu prendre de nouveau le vin, la coupe, c'est comme si Dieu me disait « Non, tu vas le laper comme un lion frais. » Et quand j'ai commencé à faire ça, tout d'un coup, mais j'ai senti le côté, entre guillemets, hein, « prédateur » de moi. Que ça existait bien. Que dévorer l'autre, ça faisait partie de moi. Et que Jésus, quand il s'est approché de moi pour me dire « Mais nourris-toi d'abord de moi », il voulait rencontrer cette partie prédatrice en moi, qui pourrait très bien dévorer l'autre de multiples façons. Et je me suis mise à pleurer et de dire « Mais Seigneur, c'est terrible, je suis en train de te dévorer ». Et c'est comme si j'entendais Jésus me dire « Oui, je me donne jusqu'au bout des fins humaines. Je me donne complètement, je me suis donnée. » Et c'est ça que je voulais que tu te rendes compte. Que tu te nourrisses de moi en premier. Parce qu'après, ça va transformer ton rapport avec les autres. Tout ce que je vais te donner, après, tu comprends, c'est moi qui te donne à travers les êtres humains. Mais d'abord, tu viens te nourrir vers moi. Alors, j'espère que je ne vous ai pas choqué. Voilà, vous êtes assez mature pour comprendre ça. Mais pour moi, il y a eu un avant et un après ce moment dans mon rapport avec les gens. J'ai mieux compris mon côté idolâtre aussi, qui pouvait se plier devant des êtres humains au lieu d'être dressé devant l'être humain, même si je peux servir l'autre dans une position d'humilité que je dois absolument développer toujours plus. Mais en même temps, cette position à genoux, c'est celle que je voulais avoir devant Dieu. Alors, comment avoir faim de Dieu, de Jésus? Alors, je crois que certains d'entre nous, on est très en contact avec nos faims, et surtout dans des périodes de nos vies. Puis ces temps, je l'étais moins, et je crois que c'est aussi pour ça que le Seigneur m'a poussée à parler de ce message-là, pour réactiver la faim de lui en moi. Parce que c'est tellement important. Heureux ceux qui ont faim maintenant. Et on parle de faim de Dieu. Voilà. Alors, pour ceux qui ont des problèmes avec la nourriture, quand vous regardez la télévision, la pub, et puis qui font la pub pour une nourriture ou une boisson pas très appropriée, en dessous, c'est marqué « manger mieux, manger moins et bouger ». Vous avez remarqué, hein, c'est les trois conseils qu'on donne aussi en diététique. À mon avis, c'est très réel aussi. Excusez-moi. Voilà. Je crois que c'est très réel aussi pour la faim spirituelle, la faim de Dieu. Donc, je vais un petit peu transposer ça. J'aimerais juste dire, si on a parmi vous où vous connaissez la faim, j'ai envie de dire bravo. Parce que ça veut dire peut-être que vous ne comblez pas votre faim mal et que vous êtes d'accord d'avoir faim et que vous êtes d'accord que c'est Dieu qui vous rencontre là. Et puis, il y en a peut-être parmi vous qui vous nourrissez mal. Régulièrement, vous avez faim, mais vous vous nourrissez mal. Eh bien, là aussi, le Seigneur est là. Vous êtes en train de combattre Et puis le Seigneur veut vous rencontrer sur ce terrain-là. Puis il y en a peut-être parmi vous qui ne ressentez pas du tout la faim. Et là aussi, le Seigneur aimerait créer en vous cette faim de lui. Donc c'est pour chacun d'entre nous ce que je vais dire maintenant. Pour moi-même, si je veux manger bien, ça commence directement le matin. Si je me lève et je mange sucré et raffiné, 2 heures après, j'ai faim et pour me rebooster, je remange quelque chose qu'il ne faudrait pas. Si je veux manger moins et mieux, pour moi, ça commence le matin. Dès mon lever, je vais manger complet, salé, diversifié, comme c'est recommandé. Et là, je vois que je vais manger moins, je vais manger mieux et j'ai plus d'énergie, je vais plus bouger. Je pense qu'il s'agit de la même chose pour nous, spirituellement. Pour moi, c'est indispensable que ma nourriture, je la prenne le matin ou même ou le soir avant. Je ne sais pas comment vous faites, vous. Mais si je remets à plus tard et je commence ma journée autrement, en général, je vais me rattraper, mais pas de la bonne façon. J'ai besoin de commencer ma journée avec Dieu et d'avoir une bonne nourriture. Moi, je lis avec le lecteur, mais que ce soit une journée de travail ou pas, si je ne commence pas à me nourrir bien, ensuite je me nourris mal et je vais même avoir des nourritures compulsives. Ça veut dire que quand je vais être très stressée, bah, ça peut m'arriver que je vais allumer mon ordinateur, je vais commencer à jouer à des jeux, que j'ai un moment de détente pour déstresser, puis je vais manger n'importe quoi à ce moment-là. Et j'ai de la peine même à arrêter. Et j'ai remarqué que m'abstenir de ça, je vais avoir de la peine, mais si je commence bien ma journée et dans le répétitif, il y a quelque chose de bon qui est créé en moi. Mais je crois aussi qu'il y a une autre façon, alors j'ai dit bouger tout à l'heure, hein, de bouger. Il y a une autre façon aussi d'avoir faim. Quand on bouge beaucoup, on élimine beaucoup de calories et forcément on a faim après. Et je crois que spirituellement, c'est aussi la même chose. Si on choisit dans nos vies que des situations où on est en contrôle, où on est en confort et où il n'y a pas de défi, on ne bouge pas assez, eh ben, on a moins faim de Dieu. Et souvent, quand Dieu, on est d'accord de répondre à son appel, il nous met dans des situations de défi, où on est des moments au front, et quand on est au front, on se bat et on bouge beaucoup, et on va avoir besoin de Dieu, mais tellement. Parce que c'est impossible de tenir au front spirituellement, si on n'est pas nourri de Dieu, on a vraiment besoin de lui. Et je pense qu'une façon d'avoir faim de Dieu aussi, c'est d'accepter des appels qui vont nous mettre dans des défis qui vont nous affamer de Dieu. On va avoir besoin de lui. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi je vois des fois dans ma vie, les périodes où je me laisse aller, où j'ai envie que de confort, où je veux me protéger, où je veux la tranquillité et tout, je m'affame moins, mais j'ai moins faim de Dieu aussi. Voilà. Très concrètement, je pense que ça peut être un sujet de prière et de dire au Seigneur concrètement qu'on est d'accord d'avoir faim. Et ça va impliquer plusieurs choses. Déjà, de le dire à Dieu. Seigneur, je suis d'accord d'avoir faim. Je suis d'accord de ressentir la faim. Je suis d'accord aussi de me dire que derrière mes faims que je ressens, d'abord, c'est de toi que j'ai besoin. C'est aussi renoncer à se nourrir de beaucoup d'autres choses qui peuvent nous apaiser et ne pas nous faire ressentir la faim de lui. Il y a beaucoup de façons dont on peut se nourrir et après, on n'a pas faim de lui. Et franchement, manger un steak après une fondue, on a tous de la peine. Et c'est normal. Voilà. Que Dieu nous aide justement dans ce qu'on a l'habitude de nous nourrir et qui ôte notre faim de lui, d'être d'accord d'y renoncer. Alors souvent, on n'y arrive pas. et on a besoin de prière. Et c'est pour ça que je trouverais qu'un groupe gris dans l'église, ce serait important. Parce que quand on commence régulièrement à prier pour ça, il y a quelque chose qui s'enclenche. Et tout d'un coup, on devient plus dépendant de ce que Dieu aimerait nous donner. Il y a une prière que quelqu'un faisait, c'est que toutes mes fins te glorifient. On en revient au message aussi de Jonathan la semaine dernière. Hein. Que Dieu règne dans nos fins et qu'il puisse accomplir ce qui a besoin de l'être pour que nous devenions réellement dépendants de lui. Et puis, j'aimerais dire aussi qu'il y en a parmi nous, et je peux en faire partie, une des façons de se nourrir faussement, c'est contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est relever trop de défis et d'avoir une vie remplie d'activités spirituelles. Et on peut être des obèses spirituelles au niveau des activités, des messages, de beaucoup de choses. Et voilà, on a besoin de discernement. Il y a tellement de possibilités différentes de choses qui peuvent nous nourrir. C'est aussi de découvrir quelle est la fin qu'il y a derrière mes compulsions. C'est quoi que Dieu veut rencontrer? Et parfois, Dieu fait les choses à travers les relations, à travers ces questions grises, et que c'est vraiment par là qu'il nous rejoint. Mais pour que ce soit équilibré dans nos vies, ça doit commencer par lui. En conclusion, est-ce que la Sainte Cène vous a manqué pendant le confinement? L'avez-vous pris avec un frère, une sœur pendant tout ce temps-là? Eh bien, ça montre qu'on avait vraiment faim de Jésus et qu'on en avait besoin. Ce n'était pas juste un rite de communion qui nous manquait. Ça parle réellement qu'il y a quelque chose en nous qui répond, qui dit, mais symboliquement, on a besoin de se nourrir de lui. Moi, je me sens personnellement interpellée parce que vraiment, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce pain, est-ce que chaque fois qu'on mange du pain ou qu'on boit du vin, on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous et qu'il s'est donné pour nos fins? En fait, il y a la Sainte Cène, mais normalement, ce n'était pas un rituel que les gens vivaient dans un moment de communion de l'Église. C'était qu'ils mangeaient ensemble et pendant qu'ils mangeaient, ils se rendaient compte que ce pain était comme un symbole de ce que Jésus avait fait. Et ça, on peut le faire tout le long de nos vies, de nos journées. Et on peut demander à Dieu qu'il nous rappelle ça. Je suis vraiment une nourriture pour toi. Tu as besoin, si tu ne te nourris pas de moi, forcément, tu vas te nourrir de quelqu'un d'autre ou de toi-même. Et tu ne seras pas affamé de la bonne faim. Moi, je ne veux pas m'en passer. Vraiment, c'est quelque chose... Voilà, que j'ai besoin d'expérimenter tout le temps et que je demande toujours à Dieu de refaire en moi. Mais je ne veux pas remettre en question ce qu'on peut se donner les uns aux autres de la part du Seigneur. Moi, ce matin, je me suis réveillée. J'étais vraiment pas de bonne compagnie pour mon mari. On a eu plusieurs choses qui nous ont éprouvées hier soir et on a quelqu'un qui a dû être hospitalisé, une deuxième personne de la famille. Et vraiment, on s'est regardé. Chacun, on avait été éprouvé de notre côté. Puis ce matin, c'est mon mari, tout d'un coup, il a dit, bon, tu t'occupes de ton message, moi je m'occupe de tout. Il a eu des paroles pour moi, il a prié pour moi. Ben voilà, j'ai reçu cette nourriture de la part du Seigneur qui traversait mon mari. Parce que c'était juste trop ce que j'avais vécu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai reçu aussi la prière de Rémi, que je suis là et que j'arrive au cœur de ces défis. Eh ben, apporter un message. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur le psaume 42:2. On a chanté comme une biche soupire après un courant d'eau. De même, je soupire après toi, mon Dieu. C'est une très belle, c'est très poétique, c'est très doux, très beau, très féminin comme image. Chez Chouraki, c'est une traduction de la Bible, c'est traduit différemment. Et du reste, dans certaines Bibles d'aujourd'hui, dans les révisions, c'est écrit un peu différemment. Et ça rejoint ce texte, cette question grise. Comme le cerf brame sur les eaux des ruisseaux, ainsi mon être brame vers toi, Elohim. Vous savez tous, hein, le cerf, quand il brame, pourquoi il brame? Il est en rute, il a un besoin, voilà, de trouver une femelle, de se battre avec les autres mâles, et de, voilà, de, c'est une question sexuelle, hormonale. Moi, je trouve ça magnifique. Ça parle vraiment de nos besoins profonds. C'est pas seulement beau, la petite gazelle qui... Mais même ça, hein, parce que la petite gazelle qui soupire après son trou d'eau, excusez-moi, hein, mais les lions sont là dans les trous d'eau, c'est un défi, il y a une bataille, c'est pas rien. Et on parle d'un pays chaud, là, où c'est un danger, les trous d'eau. On a un peu tendance à poétiser, à féminiser les choses, mais non, la Bible, elle répond très concrètement. Et la Sainte Seine, moi, on va la prendre maintenant, et dans le texte qui va être lu, que ça crée la faim en vous, que ça comble vos faims, mais que ça attire votre attention aussi sur cette question de faim, de soif, qu'on a en nous, qui ont peut-être besoin d'être réactivés, ou au contraire, qui ont besoin d'être apaisés, mais que nos faims, nos soifs glorifient notre Dieu.